Et si vous gardez vos altcoins à long terme, vous allez vous faire défoncer la tête.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette cinquième analyse de patrimoine avec Valentin Chaponnet qui est conseiller en investissement financier. Et aujourd'hui, nous allons analyser un patrimoine avec un héritage qui vient de tomber en mars 2025, 150 000 euros, qui change la trajectoire de ce patrimoine quasi du jour au lendemain. Donc on a une personne qui nous a contacté et qui aujourd'hui veut préparer donc la retraite avec une croissance de ce patrimoine qu'il veut agressive selon ses termes. Donc il vient de toucher 150 000 euros en mars 2025. On va voir dans un instant qu'il a une répartition avec 50 000 euros en actions PEA et compte titres ordinaires, 50 000 euros en crypto et actuellement pas mal d'USDC qui travaillent à 8% sur Morpho plus Liminal dans l'attente d'achat de Bitcoin dans un futur bear market, 25 000 euros dans l'achat d'un appartement en investissement locatif et le reste qui travaille sur des livrets prêts à déployer en cas de baisse des marchés actions. Et il avait déjà 5 000 euros investis en PEA plus 20 000 euros crypto avant cet héritage. Donc un profil pas atypique, mais un profil qu'on ne voit pas passer souvent avec comme ça un héritage qui tombe du jour au lendemain.
Ouais, tout à fait. Hâte d'analyser tout ça.
On passe immédiatement sur le portefeuille que je vais vous afficher dans un instant. Et on passe sans plus tarder donc à ce portefeuille avec une synthèse de patrimoine où on voit très bien que en 2024, eh bien, cette personne avait à peine 1 700, 1 800 euros sur actions et fonds, 4 700 euros en crypto. On a eu l'envolée de fin 2024 qui lui a permis de bien bénéficier de ça puisqu'il est passé à 52 000 euros sur son portefeuille crypto, tandis que actions et fonds et livrets étaient en train également de se remplir. Derrière, bien entendu, 2025 a été un peu moins porteur pour les crypto-monnaies. On redescend à 21 000, 22 000, tandis que du côté des livrets et des actions, on commence à voir bien tout simplement l'arrivée justement de ces flux. Et donc, derrière, à compter de, on va dire, entre mars et mai, on a le déploiement de ce capital, les fameux 150 000 euros qui arrivent et on passe d'un patrimoine donc autour de 59 000 euros à d'un seul coup 180 puis 190 000 euros. On n'a pas malheureusement dans cette analyse patrimoniale de Finari le bien immobilier qui potentiellement pourrait faire croître très largement ce patrimoine brut. Et donc on a déjà un crypto bro apparemment, hein, puisqu'on a quand même aujourd'hui pour 52 000, voire au total 78 000 euros du patrimoine, 43% en patrimoine crypto, 38% en actions et fonds, 19% en livret. Donc, challenge du côté de l'immobilier où il faudrait rajouter ça, qu'est-ce que t'inspire, Valentin, ce patrimoine d'une personne qui a bénéficié justement d'un sacré coup de pouce de la vie, modulo le fait qu'un héritage, c'est jamais heureux la plupart du temps, mais d'un point de vue financier, c'est un sacré boost.
Ouais, tout à fait. Ça fait jamais plaisir de recevoir un héritage parce que ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un de proche. Et derrière, il y a effectivement des questions qui se posent quant à la réallocation de l'argent qui peuvent ne pas être évidentes. Là, la chose qui a été bien faite, je dirais, c'est que l'argent a été réalloué donc assez rapidement et qu'il n'est pas en train de dormir sur un compte courant ou un livret qui rapporte absolument zéro. Par contre, la répartition me laisse un petit peu dubitatif parce qu'on a une très forte exposition aux crypto-monnaies qui, je le rappelle, sont des actifs exotiques et qui doivent représenter une partie du patrimoine, mais pas quasiment 50%. Pour moi, ça me paraît beaucoup trop élevé. Des actions et fonds au global qui pèsent, à mon humble avis, pas suffisamment lourd. Et il nous manque l'information du bien immobilier. Moi, je pense qu'il a fait l'erreur d'acheter un bien immobilier en location, en direct, en France. Mon avis là-dessus est assez tranché, hein, c'est que ce n'est pas le moment de faire de l'immobilier en France. Il aurait pu aller lever de la dette sur de l'immobilier international, mais de toute façon, il nous manque les infos, donc on pourra en rediscuter après. Mais bon point pour lui, c'est qu'il a correctement redéployé son argent, il ne l'a pas laissé traîner. Par contre, la location au global me dérange un petit peu et puis cet achat immobilier pour du locatif en France ne me paraît pas vraiment opportun, surtout vu la situation économique et politique actuelle.
D'ailleurs, on peut attaquer immédiatement par le bas de cette liste, qui est un des gros points forts de ce portefeuille et de ce patrimoine, c'est que cette personne garde le minimum vital, en tout cas sur ce qui est connecté à Finari, au niveau de ses comptes bancaires, puisqu'aujourd'hui, on a à peine 275 euros qui sont disponibles sur les comptes courants. Donc, très certainement qu'il garde, je ne sais pas, voilà, 1 500, 2 000 euros ou quelque chose dans ces eaux-là tous les mois pour vivre. Et derrière, l'ensemble du reste et déployer effectivement du reste à vivre quelque part et déployer pour une croissance agressive de ce capital. Donc là, on est plutôt aligné avec le discours.
Oui, tout à fait. Là, il y a une bonne gestion des comptes courants. Un compte courant, c'est un compte de transit où on laisse sa liquidité qu'on doit utiliser pour la vie de tous les jours ou alors en vue de la redéployer immédiatement sur des investissements puisqu'il faut passer par un compte courant pour faire les virements tout simplement et ne pas laisser trop d'argent dormir là-dessus. Donc là, effectivement, on est sur une bonne gestion à ce niveau-là.
On remonte avec les livrets sur lesquels il a un livret A épargne de précaution nécessaire, bien entendu, 17 000 euros. Un LEP, donc livret d'épargne populaire avec le LEP 10 000 euros qui peut-être n'est pas maxé. J'ai plus le chiffre en tête, tu nous le rappelleras. 7 000 euros pour un compte d'épargne et un LDDS avec à peine 10 euros dessus. Là aussi, je crois que c'est à peu près 10 000 et des brouettes. Je te laisse nous rappeler, si tu les as en tête, les montants maximaux. Je ne sais même pas d'ailleurs si on dit maximaux, maximal. Bon, bref, les pros de la grammaire dans les commentaires, ils se font plaisir en général. N'hésitez pas à nous lâcher maximo, maximal. Voilà, on le laisse au montage, comme ça vous viendrez nous mettre le petit commentaire. Toujours est-il, voilà, pour les max des livrets, on est à combien aujourd'hui pour livret A, LEP et LDDS?
Donc sur le livret A, on est sur un plafond de 22 950 euros. Sur le LEP, c'est bien 10 000 euros, donc il est au maximum. Et sur le LDDS, on est sur un plafond maximum de 12 000 euros. Donc là, le point positif, c'est qu'il a tout mis, enfin il a mis son LEP pardon, au plafond maximum. Donc ça, c'est une bonne chose puisque le taux de rémunération du LEP est quasiment 2 fois supérieur à celui du livret A et du LDDS. Donc pour rappel, aujourd'hui, le taux du LEP, il est à 2,7%, là où le livret A et le LDDS sont à 1,7%. Donc ça vous permet de gratter 1% par rapport au livret A et au LDDS, tout en sachant que le LEP, comme le livret A et le LDDS, n'est soumis à aucune fiscalité. Donc c'est 2,7% de rendement net, ce qui est un très bon rendement pour une épargne réglementée. Là, la grosse erreur que je vois quand même, c'est qu'on a de l'argent sur un compte épargne. Donc, généralement, c'est des livrets qu'on vous propose en complément et qui ne sont pas capés ou alors le maximum est très élevé, du style 1 million d'euros, etc. Le problème de ces livrets, c'est que la rémunération est plus faible et puis surtout, vous êtes soumis à la flat tax de 30%. Donc, vous touchez que 70% du rendement. Donc là, ce qu'il aurait tout intérêt à faire, c'est que ces 7 000 euros, bah, il en redéploie une partie pour atteindre les 22 950 du livret A et il met le reste sur le LDDS parce qu'aujourd'hui, son livret d'épargne lui rapporte moins que ces 2 livrets-là. Après, est-ce qu'il a besoin d'autant de cash sur ses livrets? Moi, je suis pas vraiment convaincu, quoique il est en train d'acheter un bien immobilier, donc il veut peut-être aussi se couvrir de futurs risques locatifs. Donc à voir à ce niveau-là. 34 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent en admettant qu'il dépense 2 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, ce qui est un gros budget pour son âge. On atterrirait, si on garde 6 mois d'avance, aux alentours des 12 000 euros. Et donc là, ça veut dire qu'il a 22 000 euros supplémentaires de complément. Donc à voir si c'est pour le bien immobilier locatif et couvrir des risques, couvrir des travaux, etc. Ou alors si c'est de l'argent qui reste à redéployer, mais en tout cas, ça me semble un petit peu élevé.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est dans ce but, vu le profil général par rapport à ce qu'il a décrit primairement, que ce soit pour la crypto ou pour le reste des marchés, il est dans cette attente d'avoir toujours une poche de cash prête à déployer si il y avait donc une baisse importante multimarché. Donc ça fait un peu d'avance par rapport au cash, peut-être même un peu trop, mais pourquoi pas hein, pour derrière en effet payer les futurs points bas de marché. Ceci étant dit, comme d'habitude, de bien jauger du coût d'opportunité, puisque je vous le donne comme ça, puisque c'est aussi le but hein, de ces émissions. émission, de donner nos retours d'expérience. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai ouvert un compte titre, donc j'en avais déjà, mais j'ai ouvert dans une autre banque. J'ai mis 5000 euros dessus en me disant, je vais acheter un MSCI World ou un S&P 500 et je vais payer le top. J'étais convaincu il y a quelques semaines, ça doit même remonter à quelques mois désormais, de payer le top au niveau du S&P 500. Résultat, sur cette petite poche de 5000 euros, je suis à plus 8% en moins de 2-3 mois. Et donc, j'avais plus de cash que ça à déployer. Je ne l'ai pas fait en m'étant convaincu que j'allais payer le top. Et vous voyez que parfois, eh bien, on ne sait pas justement jusqu'où les marchés peuvent monter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des indices qui sont sur ATH, on a le CAC 40, on a le S&P, on a le World, on a à peu près tout, même le Gold, voilà, qui est parti sur un bull run d'anthologie. Donc c'est vrai que pour un investisseur raisonnable, c'est difficile de partir quand on a des trends comme ça qui sont un peu verticales, d'où la réserve que je ne peux que comprendre parce que je joue vachement défensif aussi en ce moment, que peut avoir donc cette analyse du jour avec du cash et des stablecoins. On va le voir dans un second temps au niveau des cryptos qui sont en train de travailler pour un potentiel bear market derrière. Donc voilà, c'était le petit aparté. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc là-dessus sur les biais psychologiques et ces fameux moments où, voilà, le moment où est-ce qu'il vaut mieux investir de suite par rapport à ce fameux coup d'opportunité où si on loupe les meilleures séances, la performance derrière se fait détruire.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est pas compliqué, hein. Moi, je vais vous donner un chiffre que j'ai. Attends, je la refais. Donc moi, c'est pas compliqué, je vais vous donner un chiffre là que j'ai sous les yeux sur le S&P 500 sur les 20 dernières années. Si vous manquez les 10 meilleures journées du S&P 500 sur 20 ans, donc c'est vraiment pas beaucoup, on parle de 10 jours sur 20 ans, vous perdez 50% de la performance du S&P 500. Donc au lieu d'essayer de timer le marché, ce que personne n'arrive à faire bien évidemment, puisque je vous le rappelle, hein, il y a 98% des gérants de fonds qui n'arrivent pas à battre les indices, des gens qui ont accès à des terminaux Bloomberg à 10 000 euros le mois, etc., n'arrivent pas à battre ces indices. Donc c'est ça, vous, de votre côté, ça va être difficile de faire beaucoup mieux que l'indice. Et donc, le coût d'opportunité, encore une fois, si vous loupez les 10 meilleures journées, vous perdez 50% de la perf du S&P 500 sur les 20 dernières années. Donc, on en a déjà parlé. Comment est-ce que vous pouvez faire pour déployer un capital si, par exemple, comme l'analyse du jour, vous touchez un gros héritage de 150 000 euros? Moi, généralement, ce que j'ai tendance à conseiller à mes clients, parce que l'aspect psychologique est quand même important, c'est de faire un lump sum sur la moitié de la somme et de faire un DCA sur 6 mois, par exemple, sur l'autre moitié de la somme. Comme ça, vous exposez sur la moitié de la somme et si le marché part à la hausse, vous avez au moins toute la performance sur 50% du capital. Et si le marché part à la baisse, vous avez 6 mois pour déployer les 50% restants du capital en DCA. Et donc ça, finalement, ça vous permet d'être dans une bonne position, quelle que soit la direction de marché dans les mois à venir. Et ça vous évite de trop stresser en ne sachant pas quoi faire. Est-ce que j'investis tout d'un coup? Est-ce que je fais du DCA, etc. Pour moi, c'est un bon compromis entre les deux. Mais attention effectivement à ce coût d'opportunité qui vous coûte bien plus cher à long terme, d'autant plus que structurellement, les marchés, alors j'ai plus trop la stat en tête, mais je crois qu'ils sont à 80 ou 85% du temps haussiers et 20% du temps baissiers. Donc, en fait, à attendre des baisses, vous avez plus de risques de perdre la hausse. Donc, attention à ce biais-là.
Ça permet de remettre les choses en place et l'église au centre du village, comme on dit souvent. Et je suis ravi de pouvoir en témoigner aujourd'hui, même pour mon propre portefeuille personnel. On a Air Liquide nominatif, donc 1700 euros, c'est du stock picking et Air Liquide qui, au travers du temps, je crois sur les 20-30 dernières années, on est sur du 10% annuel. Donc plus tous les 2 ans en nominatif, je crois qu'il y a une action offerte toutes les 10 ou 20 actions, quelque chose dans ces eaux-là, tous les 2 ans de détention. Donc ça en fait une des lignes préférées des Français pour les PEA, et etc. Donc aujourd'hui, bon, 1700 euros, je suppose qu'il n'y aura pas grand-chose à dire là-dessus.
Non, bah après, avoir des titres nominatifs, ça peut être intéressant effectivement pour récupérer des avantages. Donc sur Air Liquide, je crois que c'est effectivement 10 ou 20% de la position totale donnée en actions gratuites. Enfin, gratuite, Je vous rappelle que ça crée des nouvelles actions, donc ça vous dilue aussi. Hein. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie, mais Air Liquide est structurellement haussière, donc ça vous fait in fine plus d'argent. Et il faut avoir les actions depuis minimum 2 ans, je crois.
Oui.
Vous avez d'autres actions qui donnent des avantages comme ça. Vous avez du LVMH, par exemple, ou quand vous voulez des nominatifs, vous pouvez aller aux assemblées générales, vous récupérez une bouteille de champagne, etc. L'Oréal, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça peut être intéressant pour récupérer effectivement certains avantages. Après, ça vous demande un peu plus de travail administratif puisque vous ne déléguez pas la détention des titres à un courtier comme Fortuneo qu'on voit ici ou De Giraud.
Et en passant donc à la ligne supérieure compte-titres, on a 7600 euros avec une plus-value de 50%, plus 2568 euros. Quand on regarde un peu à l'intérieur, on a du Google Alphabet qui a dû être acheté justement sur le dip de avril 2025 quand Donald nous a offert un point d'entrée générationnel, j'ai envie de dire. On a du MSI Inc. donc qui est la société derrière tout ce qui est justement MSI World, etc., beaucoup de ETF, l'équivalent aux États-Unis de Amundi pour l'Europe. Et enfin, on a 117 euros sur l'euro, bon voilà, prêt également à déployer. Donc, pour l'instant, un portefeuille qui est concentré du côté des États-Unis avec un one-shot ici de 63% sur Alphabet, Google, assez extraordinaire, belle position.
Ouais, tout à fait. Alphabet était complètement sous-valorisé en début d'année et encore plus après les annonces de Trump sur les tarifs douaniers. Donc, c'est une bonne position. Moi, j'avais pris position aussi en stock picking sur Alphabet. J'ai fait comme lui hein, une belle culbute. Oui, prise de position intéressante sur une très belle boîte. Là, attention à Alphabet peut-être parce qu'il y a ChatGPT qui vient de sortir son nouveau navigateur avec moteur de recherche intégré via l'intelligence artificielle. Donc, à voir comment ça va jouer sur les marchés à court terme. Après, Alphabet, sur le long terme, c'est une très belle boîte qui vit très bien de la publicité, notamment. Aucun problème là-dessus. C'est du bon stock picking. Et pareil pour MSCI, qui est une très belle société, qui est un émetteur, effectivement, au-delà des ETF, c'est surtout un émetteur de données financières. C'est une boîte avec beaucoup de marge, avec ce qu'on appelle un moat, donc un avantage compétitif qui est absolument indéniable puisque c'est les leaders de leur marché sur cette partie-là. Vous avez quelques boîtes comme ça qui sont intéressantes. Vous avez le Nasdaq aussi qui fait un petit peu la même chose. Vous avez aussi CME, donc le Chicago Mercantile Exchange que vous pouvez acheter en bourse qui a un peu un business comme ça de gestionnaire de bourse, de data, etc. où on a des marges absolument folles et où le modèle n'est pas reproductible. Donc, le moat est aussi extrêmement élevé. Et puis, c'est pareil avec les agences de notation, donc S&P Global et Moody's notamment et Fitch qui sont aussi de très belles boîtes. Et on pourrait enfin citer les sociétés comme Visa et Mastercard qui, elles aussi, ont un moat absolument extraordinaire. Donc, ça fait partie de ces sociétés-là qu'il est intéressant d'avoir en portefeuille parce qu'on est sur des oligopoles ou des duopoles avec des marges qui sont absolument indécentes. Et donc ça, dans une optique de croissance à long terme, c'est hyper intéressant.
Donc, pour l'instant, on a un patrimoine qui, au niveau des actions et fonds, pour ce compte-titres, qui est orienté pour l'instant quasiment sur une seule action et participe pour 4%, donc en termes de répartition du total. On verra dans un instant par rapport aux 43% crypto que peut-être il y aura un pont à faire. Ceci étant dit, comme cette analyse a quand même une envie de croissance agressive, peut-être qu'il veut rester exposé fortement aux cryptos dans les prochaines années. Donc, c'est là où il faudra jauger de cette appétence au risque finalement par rapport justement au ratio gain-risque. On a un plan épargne-action, donc un PEA, avec 58 000 euros dessus en positif de quasi 14%. Donc, belle performance avec une première ligne de MSCI World Swap PEA. C'est la fameuse part à 5 euros et des brouettes donc, qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Il a bourriné dessus 38 000 euros, 14% de gains. On a ASML, donc le géant européen qui marche très bien aussi, notamment depuis cet avènement de Nvidia et de tout ce qui va bien pour l'IA. On a plus 40% de plus-value, 24% pour LVMH, du total, plus 2%. en recul pour Novo Nordisk, ça a été compliqué en 2025, moins 10%. Ce n'est pas si catastrophique. Schneider Electric, un des très bons élèves également en Europe et en France, donc à plus 10%, mais une petite position. Et enfin, Ferrari, qui récemment s'est pris les pieds dans le tapis. Donc, je suppose, vu qu'il est légèrement positif, que la position est toute récente pour Ferrari, avec une diversification qui est 48% en States, France 19%, Pays-Bas 11%, et enfin Danemark et Japon 6 et 4%. Que t'évoque ce PEA, mon cher Valentin ?
Bon, bah déjà, moi, le MSCI World, hein, tu connais mon avis dessus. Donc, j'aurais plutôt fait une division en trois lignes avec du SP500, du Emerging Asia et du MSCI Europe. Donc, là, le gros absent de ce portefeuille, c'est évidemment l'Asie. Je vous le rappelle, hein, l'Asie, c'est un marché aujourd'hui qui est absolument incontournable, qui s'est très, très bien repris depuis le début de l'année, qui surperforme le S&P 500 et l'Europe. Et pour moi, ça ne fait pas sens de ne pas avoir d'Asie aujourd'hui dans son portefeuille. On a ensuite du stock picking. Alors, le stock picking est plutôt pas trop mal. Hein. Il a largement atténué la baisse sur Novo Nordisk, parce que Novo Nordisk, je crois que ça a perdu 50% depuis son top. Donc, c'est vraiment cassé la figure. Après la bulle du médicament, là, c'est Ozempic, je crois, le nom, contre le diabète. Globalement, faites attention quand même aux entreprises pharma, parce que vous avez... Dans l'analyse fondamentale, vous devez analyser notamment les brevets qui arrivent à expiration. Et ça peut avoir une incidence extrêmement forte sur les business models. Donc, attention à cette partie-là. Moi, il y a une action que j'aime beaucoup en pharma, c'est Johnson & Johnson, parce qu'ils ont un business model justement qui ne repose pas que sur des brevets. Et ils ont quand même une galaxie de produits qui est extrêmement vaste. Hein. C'est un petit peu comme Procter & Gamble, là où Novo Nordisk est très dépendant d'un seul traitement. Et donc, on l'a vu, hein, dès que la bulle explose, c'est tout de suite du moins 50, moins 60% sur le portefeuille. Autre point que je tiens à souligner, c'est que ASML, Novo Nordisk et Ferrari sont des actions étrangères, ce ne sont pas des actions françaises. Actions étrangères qui distribuent des dividendes, et quand vous avez une distribution de dividendes d'actions étrangères sur votre PEA, vous ne pouvez pas récupérer de crédit d'impôt contrairement au compte titre. Donc vous allez payer de l'imposition à la source et vous allez payer de l'imposition au retrait du dividende, ce qui est beaucoup moins efficace que sur compte titre, puisque sur compte titre, le prélèvement à la source vient en déduction sur vos feuilles d'impôt, et donc vous n'avez pas de double imposition. C'est un petit peu la particularité du PEA sur cet aspect-là. Donc, si vous avez du stock picking à faire sur des actions étrangères, moi, j'aurais plutôt tendance à vous recommander d'aller sur le PEA, surtout si sur le compte-titre, pardon, surtout si ces actions distribuent des dividendes pour justement bénéficier du crédit d'impôt. Et puis ensuite, non, globalement, je pense qu'une bonne stratégie, si vous voulez absolument faire du stock picking, c'est d'avoir une grosse partie du portefeuille en ETF, et donc là vous faites S&P 500, MSCI Emerging Asia et MSCI Europe, et de l'autre côté vous avez votre stock picking qui tourne, négligence de l'Asie sur ce portefeuille là, des actions étrangères qui seraient peut-être mieux loties en compte titre pour justement bénéficier du crédit d'impôt sur la distribution de dividendes, et le stock picking d'actions françaises, le conserver évidemment sur le PEA, mais globalement c'est une enveloppe qui est plutôt bien construite telle qu'elle est aujourd'hui et qui va demander quelques ajustements.
Super, on passe donc à la dernière ligne, si j'en ai pas oublié, non c'est bon, on était bien en haut de cette liste, donc avec crypto, 78 000 euros, 43% du patrimoine, et c'est une ledger, donc c'est une personne qui a un portefeuille auto-hébergé, et comme il le décrivait tout à l'heure en intro, et bien entendu, pour l'instant, comme on est quand même relativement haut, notamment sur BTC, et qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour cet automne, si on joue ce fameux cycle de 4 ans, bon, les lignes sont en train de bouger, mais jusqu'ici, c'est ce fameux halving qui a quand même pas mal rythmé, ce fameux cycle de 4 ans, on est à 52 000 dollars en USDC, donc qui travaille actuellement, comme il le disait, à 8% sur Morpho et Liminal. On a 12 000 euros en Ether, quasi 9 000 euros en Swissborg, AAV 4 000 euros, Dogecoin 4 000 et enfin du Bitcoin 3 800. Aujourd'hui, si en effet, on tente aussi de timer le marché crypto, on peut comprendre qu'il y ait autant en stablecoin. Ceci étant dit, est-ce qu'en termes de répartition aussi, il n'y a pas un petit peu mieux à avoir, et notamment la poche Bitcoin qui est toute petite pour l'instant. Mais bon, c'est vrai qu'au vu du moment que l'on traverse là sur fin 2025, c'est assez difficile de se positionner immédiatement. Donc, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, et surtout par rapport au patrimoine général, comme on le disait tout à l'heure, 43%, 78 000 euros. Certes, il est dans cette dynamique de vouloir croître rapidement, mais est-ce que ce n'est pas vouloir courir un peu trop vite?
Ouais, bah je pense que tu as totalement raison. Hein. Et de toute façon, c'est un petit peu mon constat en début d'émission, c'est que la répartition aujourd'hui est trop agressive sur les cryptos. C'est bien d'avoir une poche crypto, bien évidemment. Moi, j'en ai une et c'est une poche qui a toute sa place dans un patrimoine. Néanmoins, attention à la pondération, c'est toujours une question de comment est-ce qu'on pondère cette poche-là. Aujourd'hui, c'est un très mauvais moment, je pense, pour acheter des altcoins. Il n'y a jamais de mauvais moment pour acheter du Bitcoin, par contre. Donc aujourd'hui, vu la taille de son portefeuille Bitcoin, ne serait-ce que faire un DCA hebdomadaire sur Bitcoin, ça peut être une bonne stratégie. Moi, c'est ce que je fais personnellement, qu'on soit à 100 000, à 120 000 ou à 50 000, je m'en bats les cacahuètes. J'achète du Bitcoin toutes les semaines. Parce que je suis là pour les 10 prochaines années. Par contre, sur les altcoins, effectivement, on ne peut pas avoir de vision long terme sur les altcoins, puisque le marché crypto ne fonctionne pas comme le marché action, et donc les hypes changent en fait tous les 2-3 ans. Donc, il faut que vous fassiez de la rotation de façon très agressive sur vos altcoins, et si vous gardez vos altcoins à long terme, vous allez vous faire défoncer la tête. Donc là, effectivement, il y a un momentum de marché qui est dangereux sur les altcoins. Et moi, j'ai très largement, à titre perso, allégé ma poche en altcoin. Par contre, la poche en Bitcoin, qui, elle, pour le coup, est investissable à long terme, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, je continue d'investir dessus en DCA, qu'on soit à 100 000 ou pas à 100 000, ça, c'est pas mon problème. Donc là, compte tenu de la répartition du portefeuille, effectivement, je pense qu'on a une belle paire sur Swissborg. Pourquoi pas rembourser la position? On a du AAV, du Ethereum qui ont déjà bien monté, hein, si on a acheté les points bas. Bon, Dogecoin, pour la blague, pourquoi pas, mais plutôt acheté en bear market. Et une rotation à faire effectivement sur du BTC, tranquillement en DCA. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, globalement, son portefeuille n'est pas non plus horrible. Hein. Il a été largement raisonnable sur le nombre de lignes. Et globalement, les lignes qu'il a sont des lignes de plutôt bonne qualité. Donc.
Et aujourd'hui, par rapport à un patrimoine comme ça qui approche les 200 000 euros hors immobilier, si on prend en considération en effet qu'il est proche des 45% là en poche crypto, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement qu'il abaisse cette poche, même s'il veut une croissance agressive à 25-30% grand maximum? Parce que dans un patrimoine global, on va dire de 500 000 euros ou 1 million d'euros plus tard, chose qu'il pourra atteindre très certainement dans 10, 15, 20 ans si ça se développe positivement à ce rythme-là. C'est vraiment un très bon coup de pouce d'avoir comme ça du cash qui rentre, et il a l'air de faire les choses correctement pour le coup. Donc, en se projetant comme ça sur un horizon de 10-20 ans, est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt à immédiatement abaisser la poche crypto par rapport au reste, notamment aux actions, ou etc., tout en maximisant, comme tu viens de le dire, le Bitcoin dans son portefeuille? Le but, ce n'est pas de devenir maximaliste, bien entendu, mais d'essayer de pondérer face aux risques que représentent les altcoins aujourd'hui. Et donc voilà, c'est des petits ajustements que je me pose en tant que question de mon côté par rapport à ce patrimoine-là en particulier, et qui, je pense, peut aussi résonner dans l'analyse du jour, qui cherche peut-être un peu ses marques sur qu'est-ce qu'il pourrait allouer au maximum, au vu justement d'une appétence au risque qui a l'air d'être assez haute, je le répète, puisque dans un patrimoine plus large, on va dire à partir de 500 000 euros ou quelque chose dans ces eaux-là, en général aujourd'hui, je suppose que toi, Valentin, tu serais plutôt à 5-10% et uniquement en Bitcoin, et pas au-delà, très probablement, pour un risque, on va dire, modéré.
Ouais, tu peux monter à 15%. 15%, et dans son cas, lui, alors pour répondre à ta question, moi, j'arbitrerai à l'intérieur de la poche crypto. Par contre, je n'arbitrerai pas la poche crypto au regard du reste du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. Il a le temps de développer son patrimoine et de faire monter les autres poches au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, il n'y a pas, j'ai exactement le même problème que lui, c'est-à-dire que ma poche crypto a grossi trop vite par rapport à mes autres poches. Et aujourd'hui, je me retrouve en surpondération de la crypto par rapport au reste. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, si vous avez vraiment du temps devant vous, et ce que j'applique à moi déjà personnellement, et ce que j'aurais tendance à recommander à mes clients qui seraient dans ce cas-là, c'est plutôt de retravailler la poche crypto pour avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne à long terme, surtout sur des montants comme ça, et de vous garder une petite poche éventuellement pour les altcoins, mais il va falloir faire de la rotation de cycle de manière très agressive et ne surtout pas garder vos altcoins à long terme. Et derrière, c'est d'utiliser la capacité d'épargne mensuelle que vous avez, donc les nouvelles rentrées d'argent, pour renforcer les autres poches d'investissement. Et au fur et à mesure du temps, ces autres poches d'investissement vont grossir et vont rattraper la poche crypto et vous allez réussir à lisser le portefeuille comme ça. Une réallocation totale, c'est-à-dire d'une poche d'investissement vers une autre, serait une bonne idée pour une personne qui est âgée et qui aurait besoin de se dérisquer et de retravailler beaucoup plus agressivement la pondération globale de son patrimoine. Si par exemple la poche crypto représente 50% comme c'est le cas aujourd'hui chez une personne de 60 ans qui a besoin de sécuriser du revenu, de sécuriser sa retraite, etc., là ça a un intérêt de faire une rotation d'un portefeuille à un autre. Mais quand on a 20 ans, ça a un intérêt de faire la rotation à l'intérieur du portefeuille, mais pas forcément d'un portefeuille à l'autre, puisque bah justement, vous avez du temps devant vous pour rattraper cette surpondération avec votre capacité d'épargne. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à lui recommander de faire ça, c'est-à-dire d'utiliser sa capacité d'épargne pour d'autres investissements et finalement laisser la poche crypto tourner toute seule tranquillement.
Super clair, et tu vois, c'est justement là où entre un simple particulier et quelqu'un qui a ton recul, on voit les choses différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile de jauger selon les profils et selon les personnes et l'appétence au risque, justement, quel est le bon pourcentage par rapport au bon patrimoine, etc. Et c'est pour ça qu'on ne peut que vous recommander de consulter déjà quand vous avez que vous commencez à avoir des fonds importants, pourquoi pas des avocats fiscalistes pour vous aider dans vos démarches quand vous avez des questionnements, pas forcément au niveau de la structuration, mais au niveau de tout ce qui se présente, on va dire, comme problématique fiscale, et également des personnes comme Valentin qui viendront vous aider à structurer tout ça patrimonialement parlant et qui vous aideront à y voir un peu plus clair quand vous avez aussi des questions de répartition, des problématiques en fonction de votre âge, de votre famille, de votre situation. Et chaque situation étant tout à fait spécifique, on a souvent besoin comme ça de se faire aider par des professionnels qui savent ce qu'ils font. Valentin, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire pour ce patrimoine qui a connu un gros coup de pouce pour le coup et qui, on l'espère, continuera de se développer aussi vite que cet énorme boss qu'on voit ici sur le graphique de Finari à compter de ce printemps 2025?
Non, c'est un beau patrimoine. C'est un patrimoine qui est plutôt bien construit pour une personne de son âge, donc félicitations pour ça. Il y a des petits ajustements à faire donc à l'intérieur de la poche crypto et à l'intérieur des poches actions, comme on l'a dit. Bon, l'immobilier en France, malheureusement, on ne l'a pas trop abordé, mais moi, je trouve que c'est plutôt une erreur d'avoir acheté un appartement en direct parce qu'il va se faire détruire par la fiscalité, il va prendre des risques au niveau des squats, de la gestion, des impayés, etc. Donc, je pense qu'à son âge, il y a d'autres choses plus intéressantes à faire, notamment sur l'immobilier à l'international qu'il aurait pu financer à crédit également, tout en étant beaucoup plus passif. Et sinon, bien continuer à économiser tous les mois et à orienter sa capacité d'épargne vers autre chose que de la crypto. Donc là, la poche crypto telle qu'elle est aujourd'hui peut continuer à vivre toute seule, et il faut par contre réorienter la capacité d'épargne vers autre chose et peut-être retravailler aussi un petit peu l'épargne de précaution qui semble survalorisée aujourd'hui et la réorienter vers d'autres investissements. Et le petit point de la fin, pour moi, il lui manque quand même un actif dont on n'a pas parlé, c'est les métaux précieux. Et ça peut être intéressant de construire une position. Alors, je sais que l'or est haut en ce moment, mais ça peut être intéressant de commencer à construire une petite position sur des métaux précieux pour se protéger de l'inflation, tout simplement.
Toujours très clair comme d'habitude et je te remercie Valentin donc pour ce 5e épisode de l'analyse de patrimoine. Vous avez le lien en commentaire et description et nous vous avons fait un nouveau formulaire qui vous proposera de répondre à plus de questions sur votre situation personnelle, familiale, etc. pour jauger au mieux de comment on peut interpréter justement derrière un simple lien comme ça à froid de Finari. Donc n'hésitez pas à remplir au mieux le nouveau formulaire et on analysera comme ça chaque semaine un nouveau patrimoine pour essayer de vous donner les clés de votre côté pour avancer sereinement et comme je le disais à l'instant, n'hésitez pas à consulter des professionnels comme Valentin. Merci Valentin, très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.
Merci Sam, merci à tous, à bientôt.